Chapitre 14. Le 20 décembre, Vorontsov écrivit au ministre de la guerre, Tchernetchev, en français, la lettre suivante. « Je ne vous ai pas écrit par le dernier courrier, cher prince, parce que je désirais décider d'abord ce que nous ferions de Hadji Mourad. Ces derniers 2 ou 3 jours, je ne me sens pas tout à fait bien. Dans ma dernière lettre, je vous ai annoncé l'arrivée ici de Hadji Mourad. Il est venu à Tiflis le 8. Le lendemain, j'ai fait sa connaissance et pendant 8 ou 9 jours, chaque jour, j'ai causé avec lui et j'ai réfléchi à ce qu'il pourrait pour nous par la suite et surtout à ce que nous pourrions faire de lui maintenant, car il se soucie fortement du sort de sa famille et dit tout à fait franchement que tant que sa famille est entre les mains de Chamil, il demeure paralysé et ne peut en rien nous servir et nous montrer sa reconnaissance pour le gracieux accueil que nous lui avons fait et le pardon que nous lui avons accordé. L'incertitude dans laquelle il se trouve relativement aux personnes qui lui sont chères provoque en lui un état fiévreux, et les personnes que j'ai attachées à lui, ici, m'affirment qu'il ne dort pas la nuit, qu'il ne mange presque rien, qu'il prie tout le temps, et ne demande qu'une seule faveur, l'autorisation de se promener un peu à cheval avec quelques cosaques, seule distraction possible pour lui, et exercice nécessaire à cause d'une habitude de longues années. Chaque jour, il vient chez moi pour s'informer si je n'ai pas de nouvelles de sa famille, et il me prie de faire réunir tous les prisonniers que nous avons faits sur les différentes lignes et qui se trouvent à notre merci, et de les proposer à Chamil en échange de sa famille. Il ajoutera même, s'il le faut, un peu d'argent. Il y a des gens qui lui en donneront pour cela. Il me répète tout le temps, « Sauvez ma famille, et ensuite, donnez-moi la possibilité de vous servir. Le mieux, selon lui, serait sur la ligne de Lesguin. Et si, au bout d'un mois, je ne vous ai pas rendu un grand service, punissez-moi comme vous le jugerez à propos. » Je lui ai répondu que tout cela me paraîtrait juste, et que, chez nous, plusieurs personnes n'auraient pas eu confiance en lui si sa famille restait dans les montagnes et non chez nous comme otage. Que j'ai fait tout mon possible pour réunir sur nos frontières les prisonniers, et que, n'ayant pas le droit, d'après nos lois, de lui donner de l'argent pour le rachat, en plus de celui qu'il se procurera lui-même, je trouverai peut-être un autre moyen de lui venir en aide. Après cela, je lui ai dit franchement mon opinion que Chamil en aucun cas ne lui rendra sa famille, que peut-être il lui promettra tout nettement le pardon absolu, avec le rétablissement dans ses anciennes fonctions, et qu'il le menacera, s'il ne retourne pas, de faire périr sa mère, sa femme et ses 6 enfants. Je lui ai demandé s'il peut me dire franchement ce qu'il ferait s'il recevait un tel ultimatum de Chamil. Hadji Mourad a levé vers le ciel les bras et les yeux et m'a dit que tout est entre les mains de Dieu, mais que lui ne se rendra jamais à son ennemi parce qu'il est tout à fait convaincu que Chamil ne lui pardonnera pas et qu'alors il ne resterait pas longtemps vivant. Quant à l'extermination de sa famille, il ne pense pas que Chamil agisse aussi légèrement. Premièrement, pour ne pas exaspérer davantage son ennemi et le rendre plus dangereux. Deuxièmement, parce qu'en Daghestan, il y a beaucoup de gens, même très influents, que cela détournerait de lui. Enfin, il m'a répété plusieurs fois que, quelle que soit la volonté de Dieu concernant l'avenir, maintenant une seule pensée le préoccupe, le rachat de la famille. Qu'il me supplie, au nom de Dieu, de lui venir en aide et de lui permettre de retourner dans les environs de Tchétchnia, où il pourrait, par nos chefs, se mettre en rapport avec sa famille, avoir toujours des nouvelles sur sa situation présente et trouver les moyens de la délivrer. Que plusieurs personnes, même quelques chefs de cette partie du pays ennemi, sont plus ou moins attachés à lui. Que dans toute cette population conquise par les Russes ou neutres, il lui sera facile d'avoir, avec notre aide, des ramifications pour atteindre le but auquel il pense jour et nuit, et dont la réussite le tranquilliserait et lui donnerait la possibilité d'agir pour notre profit et de mériter notre confiance. Il demande de l'envoyer de nouveau à Groznaïa avec une escorte de 20 à 30 cosaques courageux qui lui serviraient pour se défendre contre l'ennemi, en même temps qu'il serait pour nous la garantie de la sincérité de ses intentions. Vous comprenez, cher prince, que tout cela me met dans l'embarras, puisque, quoi qu'on fasse, une grande responsabilité m'incombe. il serait très imprudent d'avoir en lui une confiance absolue. Mais si nous voulions lui ôter tout moyen de fuite, nous devrions l'enfermer. Et cela, selon moi, serait injuste et maladroit. Une telle mesure, dont la nouvelle se répandrait bientôt dans tout le Daghestan, nous nuirait beaucoup là-bas près de tous ceux, et ils sont nombreux, qui sont prêts à marcher plus ou moins ouvertement contre Chamil, et qui s'intéressent tant au sort que nous faisons au courageux et habile Iman qui s'est vu forcé de se rendre entre nos mains. S'il nous arrivait d'agir avec Hadji Mourad comme nous agissons avec les prisonniers, tous les faits bienfaisants seraient perdus pour nous. C'est pourquoi je pense que je ne pouvais agir autrement que je l'ai fait. Je sais cependant qu'on pourrait m'accuser de fautes graves si Hadji Mourad voulait de nouveau s'en aller. Dans le service, et en présence d'affaires si embrouillées, il est difficile, pour ne pas dire impossible, de suivre la route droite sans risquer de se tromper, et sans en assumer la responsabilité. Mais une fois que la route paraît droite, il faut la suivre, advienne que pourra. Je vous prie, cher prince, de soumettre tout cela à la considération de Sa Majesté l'Empereur, et je serais heureux si notre auguste souverain daignait approuver mes actes. Tout ce que j'ai écrit plus haut, je l'ai écrit également aux généraux Zavadovski et Kozlovski pour les rapports directs de Kozlovski avec Hadji Mourad, lequel j'ai prévenu que, sans l'approbation de Kozlovski, il ne pourra rien entreprendre ni aller nulle part. Je lui ai expliqué que pour nous ce sera encore mieux s'il sort escorté de notre convoi. Autrement Chamil répandra le bruit que nous le tenons en captivité. Mais je lui ai fait promettre de ne jamais aller à Vostvidzhenskaya, puisque mon fils, à qui d'abord il s'est rendu et qu'il regarde comme son ami, n'est pas le commandant de cette place, et qu'ainsi pourraient naître des malentendus. D'ailleurs, Vostvidzhenskaya est trop près d'une population nombreuse hostile aux Russes, tandis que pour les relations qu'il désire entretenir avec ses émissaires, Groznaya est bien à tous égards. En outre, il y a 20 Cosaques choisis qui, sur sa propre demande, ne le quitteront pas une minute. J'ai envoyé aussi le lieutenant Loris Melikov, un officier digne et intelligent qui parle le tatar, connaît très bien Hadji Mourad, lequel, paraît-il, a en lui une confiance absolue. Durant les 10 jours que Hadji Mourad a passé ici, il a vécu dans la même maison que le lieutenant-colonel Prince Tarkanov, chef du district de Chouminsk, qui se trouve ici pour affaires de service. C'est un homme vraiment digne, en qui j'ai une confiance absolue. Lui aussi a su gagner la confiance de Hadji Mourad, et par l'intermédiaire de lui seul, puisqu'il parle admirablement le tatar, nous avons causé les affaires les plus délicates et les plus secrètes. J'ai interrogé Tarkanov sur Hadji Mourad, et il convient avec moi que, où il fallait agir comme j'ai agi, ou enfermer Hadji Mourad dans une prison et le garder très sévèrement, car si on le traitait mal, il ne serait pas facile à garder, ou l'expulser tout à fait du pays. Mais ces deux dernières mesures, non seulement auraient détruit tout l'avantage qui résulte pour nous de la querelle entre Hadji Mourad et Chamil, mais inévitablement eussent arrêté tout progrès du rayonnement et la possibilité d'une révolte des montagnards contre le pouvoir de Chamil. Le prince Tarkanov m'a dit être convaincu de la sincérité de Hadji Mourad. Il m'a dit aussi que Hadji Mourad est certain que Chamil ne lui pardonnera jamais, et qu'il donnerait l'ordre de l'exécuter malgré une promesse de pardon. La seule chose qui pourrait inquiéter Tarkanov, dans ses rapports avec Hadji Mourad, c'est l'attachement de celui-ci à sa religion, et il ne cache pas que Chamil pourrait agir sur lui de ce côté. Mais comme je l'ai déjà dit plus haut, jamais Chamil ne convaincra Hadji Mourad qu'il ne lui ôtera pas la vie, soit tout de suite, soit quelque temps après son retour. Voilà, cher prince, tout ce que je voulais vous dire touchant cet épisode des affaires du Caucase. Chapitre 15. Ce rapport fut expédié de Tiflis le 24 décembre, et la veille de la nouvelle année 1852, le courrier, après avoir éreinté 10 chevaux et battu jusqu'au sang 10 cochers, vint le remettre au prince Tchernychev, alors ministre de la guerre. Et le 1er janvier 1852, Tchernychev joignit le rapport de Vorontsov aux autres affaires qu'il avait à présenter à l'empereur Nicolas. Tchernetchev n'aimait pas Vorontsov. Il ne l'aimait pas à cause de l'estime générale dont jouissait Vorontsov, à cause de son immense fortune, et aussi parce qu'il était un vrai grand seigneur, tandis que lui-même restait malgré tout un parvenu. Et principalement, Tchernetchev n'aimait pas Vorontsov parce que l'empereur parlait toujours de lui avec une bienveillance particulière. Aussi Tchernetchev profitait-il de chaque occasion pour nuire autant qu'il le pouvait à Vorontsov. Dans son rapport précédent sur les affaires du Caucase, Tchernetchev avait réussi à provoquer le mécontentement de Nicolas contre Vorontsov parce que, à cause de la négligence des chefs, les montagnards avaient détruit presque entièrement un petit détachement du Caucase. Aujourd'hui, Tchernetchev avait l'intention de présenter sous un jour désavantageux les mesures prises par Vorontsov à l'égard de Hadji Mourad. Il voulait insinuer à l'empereur que Vorontsov protégeait les autochtones, même avait une certaine faiblesse pour eux, et toujours au détriment des Russes. Que c'était le cas avec Hadji Mourad. Tchernetchev se proposait de laisser entendre à l'empereur qu'en gardant Hadji Mourad au Caucase, Vorontsov avait agi imprudemment, que selon toute probabilité, Hadji Mourad ne s'était rallié à nous que pour examiner nos moyens de défense et qu'en conséquence, il valait mieux expédier Hadji Mourad dans le centre de la Russie et se servir de lui seulement quand sa famille ne serait plus dans les montagnes et qu'on pourrait avoir confiance en son dévouement. Mais ce plan ne réussit point à Tchernetchev, et cela uniquement parce que le matin du 1er janvier, Nicolas était particulièrement de mauvaise humeur et n'aurait accepté aucune proposition de n'importe qui, rien que par esprit de contradiction. D'autant plus n'était-il pas enclin à accepter la proposition de Tchernetchev, qu'il tolérait seulement, le regardant pour le moment comme un homme irremplaçable. Mais il savait de quelle manœuvre il avait usé dans le procès des décembristes pour perdre Zakhar Tchernetchev et tenter d'accaparer sa fortune. Et il le tenait pour une franche canaille. Ainsi, grâce à la mauvaise humeur de Nicolas, Hadji Mourad resta au Caucase et son sort ne fut pas modifié comme il l'eût été probablement si Tchernetchev avait fait son rapport un autre jour. Il était 9h30 quand, dans la brume d'une gelée de 20 degrés au-dessous de zéro, arriva devant le perron du palais d'hiver le gros et barbu cocher de Tchernetchev, en bonnet de velours azur, à fond pointu, assis sur le siège d'un petit traîneau pareil à celui dans lequel se promenait l'empereur Nicolas. Le cocher salua amicalement son ami, le cocher du prince Dolgorouki, qui, après avoir déposé son maître, attendait depuis déjà longtemps devant le perron du palais et avait mis les guides sous son gros derrière ouaté afin de pouvoir frotter ses mains gelées. Tchernetchev portait une cape à col de zibeline argentée très épaisse et un tricorne à plumes de coq posé à la mode d'alors. Rejetant le tablier en peau d'ours, il sortit avec précaution du traîneau ses pieds glacés. Sans galoche, il était fier de n'en pas connaître l'usage, et en se redressant et faisant sonner ses éperons, il franchit, sur le tapis, la porte du vestibule ouverte respectueusement devant lui par le portier. Dans le vestibule, Tchernetchev jeta sur les bras d'un vieux valet de chambre son manteau, s'approcha d'une glace, souleva avec précaution son tricorne au-dessus de sa perruque frisée, et, après s'être regardé dans la glace, d'un mouvement habituel de ses vieilles mains, il arrangea les mèches de ses tempes, son toupet, puis rajusta sa croix, ses aiguillettes, ses grandes épaulettes chiffrées. Cela fait, s'avançant d'une allure faiblissante sur ses vieilles jambes qui obéissaient mal, il commença à monter sur le tapis l'escalier très doux. Enfin, passant devant les valets de chambre en uniforme de parade, qui était rangé de chaque côté de la porte et le saluait avec obséquiosité, Tchernetchev entra dans le salon de réception. L'officier de service, récemment nommé aide-de-camp de l'empereur, brillait de tout son uniforme neuf, de ses épaulettes, de ses aiguillettes et de son visage rouge, encore jeune, à la petite moustache noire, les cheveux des tempes ramenés vers les yeux comme les portait l'empereur Nicolas. Il salua respectueusement Tchernetchev. Le prince Basile Dolgorouki, adjoint du ministre de la guerre, l'air ennuyé sur son visage stupide, orné des mêmes favoris, de la même moustache et des mêmes cheveux sur les tempes, à la Nicolas, le salua. L'empereur, demanda Tchernetchev à l'aide de camp, en lui indiquant interrogativement du regard la porte du cabinet de travail. « Sa Majesté vient de rentrer, » répondit l'aide de camp, en écoutant évidemment avec plaisir le son de sa propre voix, et marchant si doucement qu'un verre plein d'eau placé sur sa tête n'eût pas bougé. Il s'approcha de la porte qui s'ouvrait sans bruit, et témoignant de tout son être le respect pour le lieu dans lequel il pénétrait, il disparut derrière la porte. Pendant ce temps, Dolgorouki avait ouvert sa serviette pour vérifier les papiers qui s'y trouvaient. Tchernetchev, les sourcils froncés, se mit à marcher pour se détendre les jambes, et en même temps, il se remémorait tout ce qu'il avait à dire à l'empereur. Il se trouvait près de la porte du cabinet quand elle s'ouvrit de nouveau et laissa sortir l'aide de camp respectueux et rayonnant encore plus qu'auparavant. D'un geste, il invita le ministre et son adjoint à passer chez l'empereur. Le palais d'hiver, après l'incendie, était déjà reconstruit depuis longtemps, et Nicolas y occupait l'étage supérieur. Le cabinet de travail où il recevait les rapports de ses ministres et des hauts fonctionnaires était une pièce très haute avec quatre grandes fenêtres. Un portrait de l'empereur Alexandre Ier ornait le mur principal. Deux bureaux étaient placés entre les fenêtres, quelques sièges se trouvaient près des murs. Le milieu de la pièce était occupé par une immense table de travail, devant laquelle se trouvait le fauteuil de Nicolas et des sièges pour les visiteurs. Nicolas, en tunique noire, sans épaulettes, était assis près de la table. Rejetant en arrière son long torse très serré sur le ventre, immobile, il fixa son regard sans vie sur les arrivants. Son long visage pâle, avec son énorme front fuyant qui sortait entre les tempes bien peignées, artistement unies à la perruque qui couvrait sa calvitie, était aujourd'hui particulièrement froid et immobile. Les yeux, toujours ternes, étaient aujourd'hui plus ternes encore qu'à l'ordinaire. Les lèvres pincées au-dessous des moustaches relevées, les joues grasses, fraîchement rasées, soutenues par le col très haut, les favoris régulièrement enroulés comme de petites saucisses, le menton également soutenu par le col, tout concourait à donner à son visage une expression de mécontentement et même de colère. La raison de cette humeur était la fatigue, et la cause de cette fatigue était que la veille, il était allé au bal masqué, où, comme à son ordinaire, il s'était promené, coiffé de son casque de chevalier garde surmonté d'un oiseau, parmi le public qui se pressait pour le voir, puis s'écartait timidement à l'approche de son énorme personne, pleine d'assurance. Là, il avait rencontré de nouveau la femme masquée qui, au bal précédent, avait disparu après avoir excité en lui, par sa blancheur, son beau corps et sa voix tendre, sa sensualité sénile. Elle lui avait promis de revenir au prochain bal masqué. Hier, elle s'était approchée de lui, et cette fois, il ne l'avait plus lâchée. Il l'avait menée dans cette loge spécialement aménagée dans ce but, où il pouvait rester en tête-à-tête avec sa dame. Arrivé sans mot dire à la porte de la loge, Nicolas avait regardé autour de lui, cherchant des yeux le valet, mais il n'était pas là. Nicolas, en fronçant le sourcil, avait poussé lui-même la porte de la loge et laissé passer devant lui sa dame. « Il y a quelqu'un » s'était-elle écriée en s'arrêtant. La loge, en effet, était occupée. Sur le divan recouvert de velours, très près l'un de l'autre, étaient assis un officier de Uhlan et une jeune et jolie personne blonde, aux cheveux bouclés, en domino, le masque ôté. En apercevant la figure dressée de toute sa taille et furibonde de Nicolas, la femme blonde avait remis précipitamment son masque, tandis que l'officier, pétrifié d'horreur, sans se lever du divan, regardait Nicolas avec des yeux fixes. Quelque habitué que fût Nicolas à l'effroi qu'il provoquait chez les gens, cet effroi lui était toujours agréable. Mais parfois, il aimait à frapper les gens pétrifiés d'horreur par le contraste d'une bienveillante parole. C'était précisément ce qu'il avait fait. « Eh bien, mon cher, tu es plus jeune que moi, » avait-il dit à l'officier, que l'effroi paralysait. « Tu peux me céder la place. » L'officier avait bondi, et en pâlissant, en rougissant, l'échine basse, sans proférer une parole, était sorti de la loge derrière sa compagne, et Nicolas était resté seul avec sa dame. Celle-ci était une jolie jeune fille âgée de 20 ans, encore pure, la fille d'une gouvernante suédoise. Cette jeune fille raconta à Nicolas qu'encore enfant, D'après ses portraits, elle était devenue amoureuse de lui, qu'elle l'adorait, et avait décidé, coûte que coûte, d'attirer sur elle son attention. Elle avait atteint son but, et maintenant, lui disait-elle, elle n'avait plus besoin de rien. Cette jeune fille fut amenée à l'endroit ordinaire des rendez-vous de Nicolas avec les femmes, et il passa avec elle plus d'une heure. Et cette nuit, quand de retour dans sa chambre, il se coucha sur son lit étroit, dur, dont il était fier, et se couvrit de son manteau, qu'il trouvait aussi célèbre, il le disait, que le chapeau de Napoléon, il ne put de longtemps s'endormir. Tantôt il se rappelait l'expression effrayée et enthousiaste du visage blanc de la jeune fille, tantôt les fortes et grasses épaules de sa maîtresse en titre, Madame Nelidoff, et il comparait les deux femmes. Mais il ne lui venait point en tête que la débauche d'un homme marié est ignominieuse, et il eût été fort étonné si quelqu'un l'en avait blâmé. Cependant, bien que convaincu qu'il agissait convenablement, il sentait quelque chose de désagréable, une sorte de remords, et, pour étouffer ce sentiment, il se mit à penser à ce qui le calmait toujours, quel grand homme il était. Bien qu'il se fût endormi tard, il se leva dès 7 heures du matin. Après sa toilette habituelle, après avoir frotté de glace son grand et gros corps, après avoir prié Dieu, récitant les prières habituelles qu'il répétait depuis l'enfance, l'Ave, le Credo, le Paternoster, sans attribuer aucun sens aux paroles prononcées, et il sortit par le petit perron, sur le quai, en manteau et casquette. Au milieu du quai, il rencontra un élève de l'école de droit, d'une taille aussi haute que la sienne, en uniforme et chapeau. Apercevant l'uniforme de l'école qu'il n'aimait point à cause de son libéralisme, Nicolas Pavlovitch fronça les sourcils, mais la grande taille et la tenue militaire soignée de l'élève et le salut militaire qu'il fit exprès, le coude tourné en avant, adoucirent son mécontentement. « Quel nom » demanda-t-il. « Polosatov, votre majesté. »« Tu es un brave. » L'élève était resté droit, immobile, la main au chapeau. « Veux-tu entrer au service militaire ?»« Non, votre majesté. »« Imbécile !» Et Nicolas, se détournant de lui, alla plus loin et se mit à prononcer à haute voix les premiers mots qui lui vinrent en tête. « Copperwein, Copperwein !» répéta-t-il plusieurs fois le nom de la jeune fille de la veille. « Mal, mal !» Il ne pensait pas ce qu'il disait, mais il étouffait son malaise moral par l'attention aux mots qu'il prononçait. « Oui, qu'adviendrait-il de la Russie sans moi ?» se dit-il, sentant venir de nouveau un sentiment de mécontentement. « Oui, qu'adviendrait-il sans moi, non seulement de la Russie, mais de toute l'Europe ?» Il se rappela son beau-frère le roi de Prusse, sa faiblesse, sa sottise, et hocha la tête. En rentrant au palais, il aperçut le landau d'Hélène Pavlovna, qui, avec un valet habillé de rouge, s'approchait du perron Saltykovski. Hélène Pavlovna était pour lui la personnification de ces gens stupides qui discutent non seulement sur les sciences, la poésie, mais aussi sur la direction des âmes, s'imaginant qu'eux-mêmes sauraient se diriger mieux que lui, Nicolas, ne le faisait pour eux. Il savait qu'il avait beau les écraser, ces âmes paraissaient et reparaissaient de nouveau, et il se rappelait son frère, Michel Pavlovitch, mort récemment. Et un sentiment de dépit et de tristesse le saisit. Il fronça subitement les sourcils, devint sombre, puis de nouveau se mit à marmotter les premiers mots qui lui venaient aux lèvres. Il ne cessa de marmotter ainsi que rentré au palais. Dans sa chambre, il lissa devant la glace ses favoris, ses cheveux sur les tempes, sa perruque sur son crâne, redressa ses moustaches. Ensuite, il passa dans le cabinet où il recevait les rapports. Il donna d'abord audience à Tchernetchev. À l'expression du visage et principalement des yeux de Nicolas, Tchernetchev vit qu'aujourd'hui il était particulièrement de mauvaise humeur, et, connaissant l'aventure de la veille, il en comprit la raison. Nicolas salua froidement Tchernetchev, l'invita à s'asseoir et fixa sur lui ses yeux sans expression. La première affaire faisant l'objet du rapport de Tchernetchev était celle d'un vol commis par des intendants militaires. Ensuite venait celle du déplacement des troupes à la frontière prussienne. Puis les récompenses à décerner à l'occasion de la nouvelle année à quelques personnes oubliées dans la première liste. Venait ensuite le rapport de Vorontsov sur le ralliement de Hadji Mourad et enfin une affaire désagréable, celle d'un étudiant de la faculté de médecine militaire qui avait attenté à la vie d'un professeur. Nicolas, sans mot dire, les lèvres pincées, en caressant de sa longue main blanche ornée d'une seule bague d'or à l'annulaire des feuilles de papier, écoutait le rapport de Tchernychev sur le vol, sans quitter des yeux le front et le toupet du ministre. Nicolas était convaincu que tous étaient des concussionnaires. Il savait qu'il fallait punir sans délai les intendants militaires, et il avait résolu de les faire incorporer tous dans des régiments comme simples soldats. Mais il savait aussi que cela n'empêcherait pas ceux qui seraient nommés à leur place de faire la même chose. Le propre des fonctionnaires était de voler, et son devoir, à lui, consistait à les punir, et bien que cela l'ennuyât fort, il s'en acquittait consciencieusement. « Évidemment, chez nous, en Russie, il n'y a qu'un seul honnête homme, » dit-il. Tchernychev comprit aussitôt que ce seul honnête homme en Russie était Nicolas lui-même, et il sourit d'un air approbateur. « Il en est probablement ainsi, Votre Majesté, » dit-il. « Laisse cela. Je mettrai la résolution après, » dit Nicolas, qui prit le papier et le plaça à sa gauche sur la table. Tchernychev fit ensuite son rapport sur les récompenses, puis celui ayant trait au déplacement des troupes. Nicolas prit la liste, biffa quelques noms, et ensuite, brièvement et résolument, donna l'ordre de faire avancer deux divisions sur la frontière prussienne. Nicolas ne pouvait pardonner au roi de Prusse la constitution accordée à ses sujets après 1848. C'est pourquoi, tout en exprimant à son beau-frère, dans ses lettres et en paroles, les sentiments les plus amicaux, il croyait nécessaire d'avoir en tout cas des troupes sur la frontière prussienne. Ces troupes pourraient également être utiles en cas de révolte du peuple en Prusse. Nicolas voyait partout des préparatifs de révolte. Il pourrait les faire avancer pour défendre le trône de son beau-frère, comme il avait fait avancer une armée pour défendre les Autrichiens contre les Hongrois. Les troupes étaient nécessaires aussi pour donner plus de poids et plus d'importance à ses conseils au roi de Prusse. « Oui, qu'adviendrait-il maintenant de la Russie si je n'étais pas là ? » pensa-t-il de nouveau. « Eh bien, quoi encore ? » demanda-t-il. « Le courrier du Caucase, » dit Tchernychev, et il se mit à résumer ce que lui avait écrit Vorontsov sur le ralliement de Hadji Mourad. « Voilà, c'est un bon commencement, » dit Nicolas. « Évidemment, le plan arrêté par Votre Majesté commence à porter ses fruits, » dit Tchernychev. Ses louanges à ses capacités stratégiques étaient particulièrement agréables à Nicolas, car, bien que fier de ses capacités, au fond de son âme, il reconnaissait qu'il ne les possédait pas. Mais maintenant, il avait le désir d'entendre des louanges plus détaillées à l'adresse de sa personne. « Comment entends-tu cela ? » demanda-t-il. « Voici comment je le comprends. Si l'on avait suivi depuis longtemps le plan de Votre Majesté, d'avancer graduellement, même lentement, en coupant les forêts, ravageant les champs, le Caucase serait depuis longtemps conquis. J'attribue le ralliement de Hadji Mourad à cela seul. Il a compris qu'ils ne peuvent plus tenir. « C'est vrai, » dit Nicolas. Bien que le plan d'un mouvement lent dans le pays ennemi, par la coupe des forêts et la destruction des vivres, appartint à Emolov et Veliaminov, et qu'il fut juste l'opposé du plan de Nicolas, selon lequel il fallait d'un coup occuper la résidence de Chamil et détruire ce repère de brigands, plan qui avait été suivi en 1945 lors de l'expédition de Darginsk, qui avait coûté tant de vies humaines. Malgré cela, Nicolas s'attribuait le plan d'avancement lent par la coupe systématique des forêts et la destruction des vivres. On pourrait penser que pour croire sien ce plan, il devait se cacher que c'était précisément lui qui avait insisté sur les opérations militaires entreprises en 1845 et absolument contraire à ce plan. Mais il ne se le cachait pas. Et il était aussi fier du plan de son expédition de 1845 et de celui de l'avancement lent, bien que ces deux plans fussent manifestement opposés. La flagornerie perpétuelle, grossière, mensongère, des hommes qui l'entouraient, l'avait amené à un tel point qu'il ne voyait déjà plus ses propres contradictions. Ses actes, ses propos, lui semblaient toujours concorder avec la réalité, la logique, ou même avec le simple bon sens, et il était tout à fait convaincu que toutes les mesures qu'il prenait, quelque stupides, injustes, inconséquentes qu'elles fussent, devenaient sensées, justes, conséquentes, du fait seul qu'il en était l'auteur. Telle fut sa résolution concernant l'affaire de l'étudiant de l'Académie de médecine militaire, sur laquelle Tchernetchev fit un rapport après le rapport sur le Caucase. Cette affaire était la suivante. Un jeune homme, deux fois refusé à un examen, le repassait pour la troisième fois, mais de nouveau l'examinateur l'avait refusé. Alors l'étudiant, maladivement nerveux, voyant en cela une injustice, avait saisi un canif qui était sur la table et, dans une sorte d'accès de folie, s'était jeté sur le professeur et lui avait fait quelques blessures sans aucune gravité. « Quel est son nom ?» demanda Nicolas. « Brejovski. Polonais ?»« D'origine polonaise et catholique, » répondit Tchernetchev. Nicolas fronça les sourcils. Il avait fait beaucoup de mal aux Polonais. Pour justifier ce mal, il devait être tout à fait convaincu que tous les Polonais sont des crapules. Et Nicolas les jugeait tels et les haïssait. Il les haïssait en proportion du mal qu'il leur faisait. « Attends un peu, » dit-il, et il ferma les yeux et baissa la tête. Tchernetchev, qui avait assisté à cela plusieurs fois, savait que quand Nicolas devait résoudre une question importante, il n'avait qu'à se concentrer pour un moment, et alors l'inspiration descendait sur lui, et la solution la plus sûre se présentait d'elle-même, comme si elle était dictée par quelque voix intérieure. Il se demandait maintenant de quelle manière satisfaire le plus complètement ce sentiment de colère contre les Polonais qu'avait réveillé en lui l'histoire de cet étudiant. Et la voix intérieure lui souffla la résolution suivante. Il prit le rapport et, sur la marge, écrivit de sa large écriture « Il mérite la peine de mort, mais grâce à Dieu, nous n'avons pas la peine de mort, et ce n'est pas moi qui l'établirai. Le faire passer 12 fois entre les rangées de 1000 soldats. Nicolas. » signa-t-il de son paraphe artificiel énorme. Nicolas savait que 12 000 coups de baguette, c'était la mort non seulement sûre, mais la mort la plus terrible, et c'était une cruauté tout à fait inutile, puisque 5 000 coups suffisaient pour tuer l'homme le plus vigoureux. Mais il lui était agréable d'être impitoyablement cruel, et il lui était agréable de penser que la peine de mort n'existait pas en Russie. Quand il eut achevé d'écrire sa résolution sur l'affaire de l'étudiant, il remit le papier à Tchernetchev. « Voilà, dit-il, lis. » Tchernetchev lut, et en signe d'admiration respectueuse pour la sagesse de la décision, inclina la tête. « Oui, et il faut aussi que tous les étudiants se rendent sur la place et assistent au châtiment, » ajouta Nicolas. « Cela leur sera utile. » « J'extirperai cet esprit révolutionnaire. » « Je l'extirperai avec la racine, » pensa-t-il. « À vos ordres, » dit Tchernetchev, et après un court silence, et en arrangeant son toupet, il retourna au rapport sur le Caucase. « Alors, qu'ordonnez-vous d'écrire à Mikhaïl Semyonovitch ?»« Il faut s'en tenir à mon système d'anéantissement des demeures et de destruction des vivres dans la Tchétchnia, et les harceler par des incursions, » dit Nicolas. « Et au sujet de Hadji Morad, qu'ordonnez-vous » demanda Tchernetchev. « Mais Vorontsov écrit qu'il veut l'employer au Caucase. »« Ne serait-ce pas risqué ?» hasarda Tchernetchev. « En évitant le regard de Nicolas, j'ai peur que Mikhaïl Semyonovitch ne soit trop confiant. »« Et toi, que penserais-tu » demanda brutalement Nicolas, qui avait remarqué l'intention de Tchernetchev de présenter sous un jour défavorable les dispositions de Vorontsov. « J'aurais cru plus sûr de l'expédier en Russie. »« Tu penses cela ?» fit Nicolas d'un ton moqueur. « Et moi, je ne le pense pas, et suis d'accord avec Vorontsov. Écris-lui dans ce sens. »« À vos ordres, » dit Tchernetchev, et se levant, il prit congé. Dolgorouki, qui pendant tout le rapport n'avait prononcé que quelques mots sur le déplacement des troupes, en réponse à des questions que lui avait posées Nicolas, prit congé également. Après Tchernetchev, Bibikov fut introduit. Général-gouverneur des provinces de l'Ouest, il était venu prendre congé. Après avoir approuvé les mesures prises par Bibikov contre les paysans révoltés qui ne voulaient pas se soumettre à l'orthodoxie, il lui donna l'ordre de traduire devant un conseil de guerre tous ceux qui désobéiraient. Cela signifiait les condamner à la bastonnade entre deux rangées de soldats. Il ordonna encore d'incorporer dans l'armée comme simple soldat, le directeur d'un journal qui avait publié quelques renseignements sur le fait que plusieurs milliers de paysans, appartenant au trésor, avait été inscrit comme appartenant personnellement à l'empereur. « J'ai fait cela parce que je le croyais nécessaire, dit-il, et je ne permettrai pas de discuter mes actes. » Bibikov comprenait toute la cruauté de l'ordre concernant les uniates et toute l'injustice du transfert des paysans du trésor, c'est-à-dire d'hommes libres, en paysans de la famille impériale, c'est-à-dire en serfs de cette famille. Mais il n'y avait rien à objecter. N'être pas d'accord avec l'ordre de Nicolas, cela signifiait perdre cette situation brillante, acquise par 40 ans de labeur, dont il jouissait maintenant. C'est pourquoi il inclina respectueusement sa tête noire grisonnante, en signe qu'il obéirait et qu'il était prêt à exécuter la volonté impériale, cruelle, folle et malhonnête. Ayant donné congé à Bibikov, Nicolas, avec la conscience du devoir bien rempli, s'étira, regarda sa montre et alla s'habiller pour la sortie. Il revêtit un uniforme à épaulettes, chamarré de décorations et de rubans, et cela fait, il entra dans le salon de réception où plus de 100 personnes, les messieurs en uniforme, les dames en robe de gala, décolletées, tous rangés à certaines places déterminées, en tremblant, attendaient sa sortie. Il s'avança, le regard terne, la poitrine bombée, le ventre saillant, vers ceux qui l'attendaient, et, les sentant tous tremblants de servilité et leurs regards tournés vers lui, il prit un air encore plus solennel. Quand ses yeux rencontraient les visages connus, il se rappelait les noms, s'arrêtait, disait quelques mots soit en russe, soit en français, ou, les cinglants de son regard froid et terne, il écoutait ce qu'on lui disait. Après avoir reçu les félicitations, Nicolas se rendit à la chapelle. Dieu, par l'intermédiaire de ses serviteurs, de même que les hommes, le saluait et lui adressait des louanges. Et Nicolas recevait ses saluts et ses louanges comme une chose due, bien que cela l'ennuyât déjà. Mais il en devait être ainsi, car c'était de lui que dépendait le bien-être et le bonheur de tout l'univers, et tout fatigué qu'il fût de cela, cependant il ne refusait pas au monde son aide bienveillante. Quand à la fin de l'office, un superbe diacre bien peigné prononça le souhait de longue vie, et que les chanteurs, avec de belles voix, reprirent les paroles, Nicolas, se retournant alors, remarqua Madame Nelidoff qui se trouvait près de la fenêtre. Il jeta un regard sur ses épaules et décida en sa faveur la comparaison avec la demoiselle de la veille. Après la messe, il alla chez l'impératrice et demeura quelques minutes au milieu de sa famille, plaisantant avec ses enfants et sa femme. Ensuite, il traversa l'ermitage et se rendit chez le ministre de la cour, Volkonski, à qui il ordonna, entre autres, de payer sur sa cassette privée une pension annuelle à la mère de la demoiselle d'hier. Ensuite, il sortit faire sa promenade habituelle. Le dîner avait lieu ce jour-là dans la salle de Pompéi. Outre les fils cadets Nicolas et Michel, le baron Lieven, le comte Rievouski, Dolgorouki, l'ambassadeur de Prusse et l'aide de camp du roi de Prusse y étaient conviés. En attendant l'entrée de l'impératrice et de l'empereur, une conversation très intéressante s'engageait entre l'ambassadeur de Prusse et le baron Lieven à propos de nouvelles inquiétantes reçues de Pologne. La Pologne et le Caucase sont deux contrées de la Russie, dans chacune desquelles il nous faudrait 100 000 hommes, dit Lieven. À cela, l'ambassadeur exprima un étonnement fin. « Vous dites la Pologne ? » interrogea-t-il. « Parfaitement. » « Ah, ce fut un coup de maître de Metternich de nous en avoir laissé l'embarras. » À ce moment parut l'impératrice, la tête branlante, le sourire figé, suivi de Nicolas. Pendant le dîner, Nicolas raconta le ralliement du Hadji Mourad et dit que la guerre du Caucase serait bientôt terminée grâce à ses ordres pour l'extermination des montagnards par la coupe des forêts et son système de fortification. L'ambassadeur échangea un regard rapide avec l'aide de camp prussien, car, pas plus tard que ce matin, ils avaient causé ensemble de la malheureuse faiblesse de Nicolas de se croire un grand stratège. Et Nicolas faisait grand étalage de ses plans qui prouvaient une fois de plus ses grandes capacités militaires. Après le dîner, Nicolas assista au ballet où se montraient en maillot 100 femmes. L'une d'elles lui plut particulièrement, et faisant appeler le maître du ballet, un Allemand, il le remercia et donna l'ordre de lui faire remettre une bague ornée d'un diamant. Le lendemain, pendant le rapport de Tchernychev, Nicolas confirma son ordre à Vorontsov de harceler surtout la Tchétchnia et de l'enserrer dans une ligne de cordon, maintenant que Hadji Mourad s'était rallié. Tchernychev écrivit en ce sens à Vorontsov, et un autre courrier, crevant les chevaux et cassant la figure au cocher, partit pour Tiflis.